Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Espace qui n'est plus à présenter sur Radio de la Paix. Bienvenue et merci de nous suivre. Nous nous intéressons aujourd'hui à la déflation dans l'économie. Et pour en parler, vous le devinez, nous sommes en compagnie de Faustin Onozon, notre expert en intelligence économique pour nous expliquer cette situation que peut vivre l'économie mondiale. Ça sera dans la rubrique Regard sur l'économie. Et bien avant cela, dans le lexique économique, vous aurez les explications des termes comme la déflation, les taux directeurs et le commerce international. Vous pourrez suivre aussi dans ce numéro d'Economia la dernière articulation de cette émission, les tendances de la bourse. Voici pour le sommaire de cet autre numéro d'Economia sur Radio de la Paix. Bienvenue à tous.
Le lexique économique. Le lexique économique.
La déflation.
La déflation est un gain de pouvoir d'achat de la monnaie. On peut acheter donc plus de biens et de services avec la même quantité de monnaie. Et cela se traduit par une baisse durable du niveau général des prix. Et ce phénomène de déflation ne doit pas être confondu aussi avec la désinflation. Oui, la désinflation qui est un ralentissement de l'inflation, soit une diminution du taux d'inflation. Et puis la déflation est une conséquence normale de l'évolution des structures économiques quand les marchés sont saturés à la suite donc d'innovations qui permettent des gains de productivité.
Les taux directeurs.
Les taux directeurs, on parle de banque, sont les taux d'intérêt au jour le jour fixés par la banque centrale, notamment la banque centrale d'un pays ou d'une union monétaire. Dans le cas par exemple de l'UEMOA, c'est la BCAO, qui permettent donc ces taux directeurs de réguler l'activité économique.
Le commerce mondial ou international.
Le commerce mondial ou international, ce sont les échanges de biens et services dans le monde. Le commerce international renvoie également à l'organisation des échanges internationaux entre deux ou plusieurs espaces économiques. Ça peut être des modes de règlement des échanges, des mesures douanières, la gestion des risques de change et bien d'autres mesures.
Regard sur la gestion économique nationale.
Merci de suivre cette rubrique avec notre consultant habituel. Il est toujours avec nous pour vous informer. C'est M. Faustin Onozon dans nos studios. M. Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour.
Nous allons nous intéresser encore à ces situations conjoncturelles de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons de la déflation. Alors, la déflation, c'est une situation que l'économie mondiale vit actuellement, c'est cela ?
Tout à fait.
Mmh. Alors, mais c'est quoi la déflation, pour expliquer simplement?
On peut l'expliquer simplement. La déflation, c'est le contraire de l'inflation.
Oui, le contraire de l'inflation.
Voilà.
Donc, on reviendra à expliquer c'est quoi l'inflation pour qu'on comprenne mieux.
Voilà, l'inflation, c'est l'augmentation du niveau général des prix. Voilà, c'est ça l'inflation. C'est-à-dire, on a une augmentation qui est tout à fait anormale. Du jour au lendemain, la boîte de lait que vous achetez, elle passe peut-être de 2000 francs à 2500. Voilà, si ça ne tenait qu'à la seule boîte de lait, il n'y avait pas de problème. Mais quand c'est tous les prix dont le niveau augmente, on parle alors d'inflation. Et l'hyperinflation, quand ça dépasse un taux de 10% par exemple, et puis il y a la désinflation, quand on cherche à revenir en bas de l'hyperinflation. Et puis, il y a l'inflation optimale. C'est celle-là qui est, disons, acceptée par tout le monde, par l'État, par les entreprises. C'est elle qui permet aux entreprises de faire un bon bénéfice. Cette inflation aussi permet à l'État d'avoir des recettes supplémentaires.
L'inflation optimale, hein, optimale, comme l'avait appelé. Mais à côté de ça, il y a la déflation. Vous dites que c'est le contraire de l'inflation.
Oui, justement, j'arrive. Donc, dès qu'on quitte cette inflation optimale, on va certainement jusqu'à un taux de 0%. C'est une inflation qui est nulle. Et là, l'inflation nulle, elle n'est toujours pas bonne parce qu'elle est en deçà de l'inflation optimale. Maintenant, la déflation, c'est lorsque on descend en dessous de zéro. C'est-à-dire, on va peut-être à moins 3%, moins 4%. Ça veut dire tout simplement que vous vendez à perte.
On vend à perte. Voilà. Alors, mais on a connu, en tout cas pour parler du monde entier, hein, une situation d'inflation notée un peu partout. Les causes, on en a parlé, guerre en Ukraine, avant cela la Covid-19. Et puis aujourd'hui, tel que vous m'expliquez, on commence à ressentir la déflation dans certaines zones du monde. C'est le constat que vous faites en tant qu'économiste ?
Oui, la politique économique et financière a été la même. Parce qu'il n'y avait pratiquement plus d'économie viable. Donc, en pareille occasion, on peut mener soit une politique budgétaire ou alors une politique monétaire. Et les banques centrales ont pris leurs responsabilités pour baisser le niveau du taux d'intérêt. C'est-à-dire pour laisser le crédit à la portée de tout le monde. Donc, pour développer l'investissement. Plus l'investissement augmente, plus le PIB augmente, en passant par la consommation, plus le sort du commerce extérieur. Et c'est ce que tous les pays du monde ont fait. Et donc, il y a eu un boom en matière de gestion de la production nationale. On est passé de certaines productions qui étaient négatives à des productions largement positives. Et ça, on a connu. Mais ça, ça va de pair en même temps avec aussi l'augmentation du niveau général des prix. Parce que quand la Banque centrale permet à tout le monde d'aller au guichet des banques commerciales pour pouvoir s'endetter et développer l'investissement, c'est qu'il y a eu une masse monétaire en circulation qui a été dégagée. Ce n'est pas dans les habitudes la gestion d'une production nationale. J'allais même dire que c'est une masse artificielle. Elle ne relève pas des transactions financières avec l'étranger. Donc, c'est de l'argent qu'on a dégagé, qu'on utilise. Donc, la situation n'est même pas dans une situation tout à fait normale. Mais il va de soi que quand ce phénomène se réalise plusieurs fois, ce que font derrière les banques centrales, il va de soi qu'à un moment donné, l'économie connaisse des perturbations. C'est-à-dire, il y a une inflation qui vient accompagner cette économie-là. Et si on y prend garde, mais elle va aller jusqu'à devenir une inflation galopante. Et en pareille occasion, il faut la calmer, il faut l'arrêter. Mais l'arrêter suppose qu'il faut augmenter les taux d'intérêt.
C'est ce qui a été fait récemment pour parler du cas de l'UEMOA avec la Banque centrale.
Exactement. Alors quand on augmente ces taux d'intérêt, il peut y avoir des effets pervers. Et la descente peut être vertigineuse. On peut quitter, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une inflation galopante à une inflation optimale. Ça peut se faire très rapidement.
Mais vous avez dit que l'inflation optimale, c'est ce qui est recherché.
C'est ce qui est recherché. Au niveau de l'UEMOA, c'est 2%.
2%.
Voilà, on peut même aller jusqu'à 3% qui correspond au déficit des finances publiques. Mm-hmm. Alors, donc, quand ça descend, quand les prix qui avaient pris une allure vertigineuse descendent d'une manière aussi vertigineuse, mais à un moment donné, il faut les arrêter. Sinon, ces prix-là vont aller à un taux de 0%, 0%, on ne réalise ni perte ni profit. Mais en dessous de 0%, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises, mais tout le monde perd.
Tout le monde perd. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans des parties du monde, il y a des pays qui sont déjà dans des situations de déflation?
Oui, il y a certains pays, non des moindres d'ailleurs. Quand on prend un pays comme le Japon, eux, ça fait pratiquement plus de 10 ans, 15 ans, j'allais même dire 20 ans, qu'ils sont là, dans une situation qui relève de la déflation. Bon, ce qui est très souvent intéressant, à pareille occasion, c'est que avec la position attentiste des individus, ceux qui vont acheter les produits, qui attendent à ce que les prix baissent, les prix à l'intérieur sont tellement bas, mais pour ces pays qui sont des pays développés, là où ils se rattrapent, c'est au niveau extérieur, parce qu'ils vendent des produits de qualité. Donc, ils mettent l'accent sur les relations financières avec l'étranger. Et ce qu'ils ont là-bas comme manne vient compenser les pertes qu'ils réalisent au niveau de leur pays. Mais imaginez-vous un seul instant, un pays, j'allais dire africain, ou alors un pays en voie de développement, et qui connaît une déflation. Mais sur le plan extérieur, en matière de relations financières avec l'étranger, vous avez vu un peu le commerce africain. Et sur le plan mondial, on est à 4%. On est même en train de descendre à 3%.
C'est ça.
L'année prochaine, on risque d'aller jusqu'à 2,5% du commerce mondial.
Pourquoi on recule autant, pays africain? 3%, on s'était dit les choses allaient évoluer. On note aussi une transaction qui s'augmente. On exporte beaucoup. Mais pourquoi on pèse très peu dans le commerce mondial?
Mais il y a la qualité de la transaction. D'abord, il y a la transaction elle-même en tant que produit qui a des qualités. Et puis, il y a ceux qui vont négocier la gestion de cette transaction. Admettons que vous ayez certainement du pétrole, que vous voulez vendre, vous voulez exporter votre pétrole. Mais l'opération, elle doit se faire à plusieurs niveaux. Il faudrait que vous ayez les hommes nécessaires, susceptibles de négocier le prix d'exportation de votre pétrole. Et puis ensuite, il faudrait aussi que ce soit du pétrole de qualité. Donc, il faudrait que ce pétrole soit certainement transformé à la base pour que vous ayez un produit de qualité. Et quand vous allez dans les pays du Proche ou Moyen-Orient, des pays comme l'Arabie Saoudite, c'est des contrats qui sont faits d'une manière tout à fait cohérente. Il a même dit exceptionnel. Je ne dis pas que chez nous, on ne les fait pas d'une manière cohérente, mais tout est une question de gestion qualitative de la transaction. Donc, il faut avoir certainement les hommes, il faut être habitué. Parce que si vous n'êtes pas habitué, ben, justement, vous allez prendre le coup. Donc, il y a plusieurs paramètres qu'il faut observer. Quand je prends un pays développé, il y a la transaction elle-même et puis il y a la qualité des produits.
Que vous offrez au monde.
Voilà. Maintenant, nous, pour que nous puissions entrer dans ce concert des nations, mais il faudrait qu'on observe ces paramètres-là.
Just so. C'est ça. En tout cas, nous parlons de déflation. On a glissé un peu sur ce sujet. Mais alors, vous avez cité un pays comme le Japon. Mais vous me disiez aussi que la Grande Chine, qui est considérée comme l'usine du monde, vit aussi un peu cette situation de déflation aujourd'hui.
Oui, et c'est ce que nous apprenons à travers les nouvelles économiques et financières internationales. Et justement, ils sont en train de prendre toutes les précautions. Parce que quand vous êtes en période de déflation, je vous disais tantôt que c'était le contraire de l'inflation. Ça veut dire certainement que vous avez baissé les taux d'intérêt, le loyer de l'argent. Et donc, ça a développé pas mal d'investissements. Mais à un moment donné, quand vous sentez qu'il y a une chute libre et que vous avez même dépassé la valeur optimale en matière d'inflation, mais il va sans dire qu'il faut remonter les taux d'intérêt. Voilà, pour que les prix puissent encore grimper. Même si c'est une inflation galopante, toujours est-il que ça permet à l'économie d'être gérée de la manière la plus cohérente qui soit.
En tout cas, c'est un sujet important, la déflation, phénomène économique qui touche aussi des pays. Quel pourrait être l'impact sur l'économie? On en parlera dans notre prochaine émission, bien sûr, avec M. Faustin Onozon. La déflation, c'est le sujet que nous proposons. Merci de votre fidélité, auditrices et auditeurs. M. Onozon, merci à vous.
Je vous en prie, Monsieur Koumi.
On se retrouve la semaine prochaine.
Tendance de la bourse.
Les tendances de la bourse, votre rendez-vous habituel maintenant, vous le savez, depuis plus d'un mois, nous sommes avec Kwao Brice qui nous éclaire un peu sur ces notions de bourse. Aujourd'hui, on a décidé de nous intéresser aux produits qu'on trouve donc dans cet univers. Monsieur Kwao, bonjour.
Bonjour Monsieur Komi, bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous avez parlé de la bourse elle-même en tant qu'entité, les métiers donc liés à cette activité boursière. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différents produits. Alors justement, sans plus tard, quels sont les produits qu'on trouve dans les bourses, notamment à la BRVM qui concerne la Côte d'Ivoire et la sous-région?
Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs produits financiers vendus sur les marchés financiers. Il y a une longue liste de produits financiers, mais je vais m'appesantir sur les produits vendus à la BRVM. Retenez déjà actions, obligations, mais en plus, donc pour les autres bourses, certificats, varants, trucs, options, et plein d'autres encore. On dit souvent que les produits financiers sont limités juste à l'imagination des financiers. Ils peuvent en créer encore et encore. Mais pour les cours que nous donnons, pour la sensibilisation, nous voulons nous focaliser sur ce que vous pouvez rencontrer concrètement à la BFM, puisque c'est la bourse qui vous est accessible. Donc essentiellement, à la BFM, vous avez les actions et les obligations. Il y a un troisième produit, les droits, mais qui est peu actif, donc on ne va pas trop en parler. Et puis, on va se focaliser sur les actions et les obligations. Donc en bourse, vous avez essentiellement à la BFM ces deux produits-là. Actions, titres de copropriété. Obligation titre de créance. Qu'est-ce que ça veut dire?
Expliquez simplement la chose. Vous l'avez dit en termes techniques. Pour quelqu'un qui a une action, ça veut dire quoi?
Action titre de copropriété, ça veut dire celui qui détient l'action est copropriétaire de l'entreprise. Copropriétaire au sens littéral. Comprenez ça au sens littéral. C'est-à-dire, si vous êtes mis ensemble avec des amis pour faire un maquis ou pour acheter un taxi, vous êtes copropriétaire du taxi. C'est la même chose avec une action. Bien sûr, copropriétaire à la proportion de ce que vous avez comme action. Donc, si je simplifie, je peux dire peut-être 1%, 2%. L'action existe même par rapport à l'existence de l'entreprise. C'est-à-dire, avant que vous n'achetiez en bourse, il y avait déjà des actionnaires, sauf qu'ils ont fait leurs choses entre eux. La bourse vous a permis à vous d'avoir accès à l'entreprise. Donc, vous êtes actionnaire comme les actionnaires initiaux. Vous avez juste une part moins importante à concurrence de ce qu'ils ont bien voulu vendre. En face de ça, quand vous achetez une obligation, vous n'êtes pas copropriétaire.
Allons-y pas à pas. Intéressons-nous surtout aux actions. Il y a deux étapes. À la création de l'entreprise, des personnes décident de mettre l'argent ensemble pour créer une entité. C'est des actionnaires.
Les actionnaires normaux. Le capital social est composé d'actions. Ceux qui ont mis de l'argent au départ sont les actionnaires. Ils forment le capital social. Par la suite, l'entreprise lance un plan de développement pour moderniser son infrastructure technologique, ses machines et tout ça. Et ce plan nécessite de l'argent. Donc une partie de ces fonds a été collectée à la BFM par justement la vente d'actions.
Donc on comprend que même si l'entreprise, vous ne l'avez pas vue naître, qu'à un moment, elle vend des actions, si vous avez la chance d'avoir ces actions, vous participez à la Assemblée générale chaque année comme les actionnaires initiaux.
Voilà. Quand on va faire la répartition du bénéfice, on ne va pas dire voici le bénéfice des anciens, puis voici bon, le bénéfice pour les nouveaux. Non. Je prendrai l'exemple d'une école. Une école primaire, par exemple, a été fondée par 3 personnes. L'activité marche très bien et après, on veut faire la partie secondaire. Au lieu de raisonner en termes d'école primaire, en termes d'école secondaire, on raisonne en termes, je crois, de groupe scolaire. Donc, on dit, bon, il nous faut peut-être 50 millions. Nous, on avait déjà mis 30 millions pour faire l'école primaire. Donc, 50%, ça fait 80 millions. Donc, vous, en apportant prend les 50 millions, vous avez peut-être 60% ou je sais pas 50% de la nouvelle activité. On calcule. Donc au final, il y a toujours une structure. Il n'y a pas deux structures, une pour les anciens, une pour les nouveaux. Il y a toujours une structure qui est redimensionnée où les nouveaux ont leur part, les anciens ont leur part, mais c'est le bénéfice qui est réparti entre nous. La structure se développe, elle ouvre son capital, de nouveaux actionnaires rentrent, mais à chaque fois, on a une structure qui génère un bénéfice qui est partagé entre tous les actionnaires.
Alors, vous êtes un analyste financier. Quels sont les avantages de détenir une action et partant, les risques aussi?
Bon, une action étant un titre de copropriété, ça suppose que si l'entité disparaît, vous perdez l'argent que vous avez investi et personne ne vous rembourse. Quand vous investissez dans un taxi qu'il brûle, personne ne vous rembourse parce que vous êtes propriétaire. On dirait en cas d'investissement sur les actions, étant copropriétaire, vous participez à la vie de l'entreprise. Donc, quand l'entreprise a des difficultés, voire fait faillite, vous perdez votre investissement. Mais c'est dans le même sens, quand l'entreprise a des bonnes performances, vous récupérez une partie de ces bénéfices-là qu'on verse sous la forme de dividendes. À l'opposé, le créancier, lui, il ne récupère pas les dividendes. On lui rembourse juste son argent avec l'intérêt correspondant.
Vous parlez de dividendes. Les dividendes, c'est quoi?
Les dividendes, c'est la partie du bénéfice qu'on alloue aux actionnaires comme rémunération du fait justement de leurs investissements. Ces dividendes-là ne sont pas donnés aux créanciers. Les créanciers reçoivent juste le remboursement de leur capital avec un intérêt. Donc, en raisonnant tout à l'heure sur qu'est-ce que ça apporte d'être actionnaire ou pas, c'est de dire en fait, j'ai deux possibilités. Soit je prête mon argent à la structure, soit je place mon argent dans la structure en tant que copropriétaire. Ce que j'aurai si je place, c'est une partie des bénéfices sur la vie de la structure. Vous êtes ses propriétaires, donc elle vous versera les dividendes pour autant d'années qu'elle générera de bénéfices. À côté de ça, l'action peut prendre de la valeur quand la structure a de bonnes performances. Voici ce qu'un actionnaire a quand l'affaire marche vraiment très bien.
Quand l'affaire marche très bien, il a dit, M. Kouao, les produits qu'on trouve à la BRVM, l'action, l'obligation. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ici, nous sommes à l'école de la bourse. Il faut retenir cela. On vous apprend pas à pas pour vous permettre de mieux comprendre, n'est-ce pas? Et grâce à M. Kouao, on en apprend beaucoup. M. Kouao, merci à vous.
Merci beaucoup.
La semaine prochaine, ne vous en faites pas, mes auditeurs. On s'intéressera encore à ce produit. Merci à vous.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.